Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme tous les vendredis, notre semaine s'achève par un débat. Aujourd'hui, nous allons examiner les lignes de fracture qui traversent la réforme de la fonction publique. L'État demeure à l'heure actuelle le premier patron de l'Hexagone, avec près d'un actif sur cinq travaillant dans la fonction publique, soit environ 5,7 millions de personnes. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires et de moderniser ce statut régulièrement dénoncé. La réforme présentée mercredi par le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérard Darmanin, va dans ce sens. L'objectif, faire des économies bien sûr, mais aussi améliorer l'efficacité des services de l'État. Les syndicats, eux, dénoncent l'emprise croissante des logiques du privé qui menacerait l'ensemble du service public. Alors faut-il aujourd'hui moderniser la fonction publique et si oui, comment ? Va-t-on vers un service public sans fonctionnaires ? Voilà les questions que nous allons poser à nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Élodie Bertrand nous plongera dans les pages de l'entreprise, le marché et le droit de l'économiste britannique Ronald Coase. Trois invités autour de la table donc. Bonjour Luc Rouban.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po et auteur de « Quel avenir de la fonction publique ?» paru à la Documentation française. À vos côtés, Olivier Babeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'Université de Bordeaux et président fondateur de l'Institut Sapiens. Et enfin, Mylène Jacot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale de la CFDT Fonction publique. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant d'en venir au projet de loi présenté mercredi en Conseil des ministres, est-ce que vous partagez les uns et les autres cette idée selon laquelle il faut aujourd'hui réformer le statut de fonctionnaire et si oui, pourquoi ? Luc Rouban, on va commencer avec vous.
Bien, je pense qu'effectivement, on a besoin de faire évoluer la fonction publique. Alors, je ne pense pas que cette évolution passe nécessairement par la remise en cause du statut. Personnellement, je pense qu'elle passe beaucoup plus par la remise en cause au sein de la fonction publique de l'État des corps qui bloquent largement la mobilité et qui créent une complexité juridique assez grande.
300 corps ?
Oui,
environ.
À peu près, oui, avec une hiérarchie sociale aussi très affirmée. À la différence, si vous voulez, de la fonction publique territoriale qui est organisée depuis 1987 en filière d'emploi. Donc vous avez une situation très fragmentée, très complexe. C'est vrai, une certaine lourdeur économique et budgétaire qui est indéniable, mais en même temps, une place très importante des fonctionnaires dans la vie sociale, dans la vie des Français au quotidien, dans l'État-providence. Donc effectivement, on a un souci de modernisation, du long terme, c'est-à-dire qu'en fait, cette question, elle se pose facilement depuis, l'Ancien Régime, depuis Henri II, depuis 1562. Hein. Donc vous voyez, ça remonte quand même un certain nombre d'années. Mais plus récemment, si vous voulez, c'est vrai que la question des déficits, la question de l'endettement de la France, la question aussi des évolutions intellectuels qui ont touché l'organisation des fonctions publiques, notamment dans les pays anglo-saxons, à travers ce qu'on a appelé le New Public Management, c'est-à-dire en bon français la nouvelle gestion publique, inspirée du secteur privé, pousse effectivement à regarder plus du côté du secteur privé aujourd'hui.
Olivier Babeau, vous diriez que le fonctionnement bureaucratique pensé par Max Weber est aujourd'hui dépassé ?
Oui, parce qu'effectivement, quand Max Weber parlait de ce fonctionnement bureaucratique, il ne parlait pas que des administrations, parce que lui, justement, son discours, qui était d'ailleurs assez dual, hein, enfin, à la fois avec beaucoup de recul, et à la fois il disait c'est la nouvelle façon de s'organiser, de créer de l'action collective, en réalité, c'est la nouvelle réponse au problème de l'action collective, vous savez, c'est la définition de l'organisation chez Michel Crozier, et il décrit ça, et pour lui, c'est la bureaucratie, c'est le point central de la montée, évidemment, du 19e siècle, de cette organisation rationnelle légale, avec une coordination par la règle, avec une répartition des postes qui est effectivement impersonnelle, et on a appliqué ça beaucoup, on pourrait dire, dans les administrations publiques. Déjà à l'époque, déjà Max Weber, vous savez, évidemment, regrettait le désenchantement du monde et puis regrettait cette espèce de déshumanisation portée par la rationalité. Mais on sait qu'il y a beaucoup de recherches, notamment en sociologie des organisations, qui ont montré combien ça pouvait mener à de la démotivation, une absence d'incitation, beaucoup de lourdeur, voire de la déshumanisation au travail. Mmh. Et c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, et peut-être que le bon angle, faut jamais prendre l'angle comptable, l'angle de la réduction, l'angle des économies, je trouve ça vraiment extrêmement réducteur, même assez bête en fait. hein. Le bon angle, c'est celui de la bonne gestion publique. Est-ce qu'aujourd'hui, on gère bien notre personnel public? Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir une carrière qui est intéressante? Est-ce qu'on attire d'ailleurs des gens dans ces métiers aujourd'hui? Je crois malheureusement que c'est pas le cas, qu'on doit changer. Et puis la dernière chose, extrêmement rapidement, mais c'est que le monde a complètement changé. Le monde de Max Weber, c'est un monde extrêmement stable, avec peu d'innovations technologiques fondamentales. Aujourd'hui, l'État, s'il veut continuer à faire son service le mieux possible, à faire le bien commun, à participer à cette œuvre publique le mieux possible, alors qu'il est en concurrence avec énormément d'acteurs, y compris privés, étrangers, qui sont en concurrence pour faire des tas de services, la santé, l'éducation, etc., il doit se réinventer profondément.
Mylène Jacquot, vous partagez ce constat d'une démotivation des agents de l'État ?
Alors, on partage une partie de ce qui vient d'être dit, effectivement, en rappelant quand même que la fonction publique, ce ne sont pas que des agents de l'État. Il y a les agents de l'État, il y a les agents des collectivités territoriales, il y a les agents de la fonction publique hospitalière. Donc on est là, un monde qui est déjà complexe, et y compris au sein de l'État, vous avez des identités culturelles fortes entre les ministères, dans les collectivités, il est compliqué de comparer les agents d'une petite collectivité avec ceux d'un grand conseil régional, etc. Donc on voit bien qu'il y a déjà des identités qui convient de connaître et de prendre en compte. Ceci dit, sur l'actualité immédiate, il nous semble que au-delà de la question de la nécessité d'une loi ou pas d'une loi, le débat essentiel, effectivement, c'est celui du travail, de l'organisation du travail et surtout du sens du travail des agents publics, donc qui renvoie à la question des missions, de l'action publique, et qui renvoie aussi à la question de nos interlocuteurs. Quels sont nos interlocuteurs aujourd'hui ? Est-ce qu'on a comme seul interlocuteur un gouvernement et qui a donc un discours politique sur la fonction publique, voire uniquement budgétaire ? C'est quand même malheureusement trop souvent le cas ces dernières années. Ou alors, on a en face de nous des employeurs, et à ce moment-là, on peut parler de la relation de travail et de la relation qui va s'établir entre des travailleurs et des employeurs.
Mais alors justement, est-ce que vous avez le sentiment, les uns et les autres, que ce projet de loi répond à cette question du sens, répond à cette question politique ? Elle a été dénoncée par un certain nombre de gens comme étant une réforme essentiellement comptable, justement, Luc Rouban.
C'est-à-dire qu'une bonne réforme de la fonction publique, à l'image de celle qui a été faite en son temps, 1945-46, alors 45 création de l'ENA, 1946 création du statut général des fonctionnaires, une bonne réforme de la fonction publique doit articuler la dimension juridique, la dimension sociale et la dimension politique. C'est-à-dire que, globalement, en 1945-46, vous avez une vision d'ensemble du problème de la fonction publique, c'est-à-dire que vous avez une mise en ordre du droit administratif pour les fonctionnaires, donc c'est le côté juridique, vous avez une vision sociale parce qu'il s'agit de diversifier notamment la haute fonction publique et de la renouveler après la crise de 1940. Et puis vous avez une vision, je dirais, politique, parce que c'est l'État, un État puissant qui dirige l'économie. Là, on a un projet de loi qui est quand même beaucoup plus technique, qui est, je dirais, qui n'exprime pas une philosophie très très claire, qui finalement préserve le statut, mais introduit quand même assez largement l'emploi contractuel, y compris dans les emplois de direction, prévoit sans doute des privatisations à terme. Donc on ne sent pas vraiment un projet global derrière tout ça.
Ça pose la question effectivement de la place qu'on veut accorder aux services publics. Et à l'heure actuelle, effectivement, dans ce projet de loi, il y a notamment un plan pour favoriser la mobilité des agents ou leur départ volontaire, les mesures sur les contractuels sur lesquelles on va revenir. Vous avez le sentiment que ce projet de loi ne répond pas aux inquiétudes et aux constats que vous pouvez faire par ailleurs, Mylène Jacquot ?
Surtout, ce qui nous inquiète, c'est que on a l'impression que ce projet de loi arrive à un moment où il est peut-être peu ou mal articulé avec d'autres projets sur la fonction publique et sur l'organisation des missions de service public, et surtout sur la réflexion qui doit conduire à une définition claire de ce que doivent être les politiques publiques. On voit bien qu'il y a des chantiers qui sont ouverts, Action publique 2022, on ne sait pas trop aujourd'hui ce que ça devient. C'est forcément percuté par les gilets jaunes, le grand débat, qui permettent de reposer un certain nombre de questions. On voit qu'il y a des attentes fortes sur la question de la présence territoriale, des services publics. Et ce projet de loi arrive un peu au milieu de tout ça. Alors, ceci dit, nous, en tant qu'organisation syndicale représentative des agents et donc des travailleurs de la fonction publique, on n'attendait pas non plus que nos relations avec nos employeurs soient mises dans le cadre du grand débat. il convient de respecter. En revanche, que la question des services publics et des attentes qui sont celles des citoyens et légitimes soient dans le grand débat, ça, ça nous semble normal. Mais on voit bien cette difficulté d'articulation, et donc ce projet de loi suscite et focalise en fait toutes les inquiétudes qui sont celles de la période sur les services publics et au-delà sur la fonction publique elle-même.
Avant d'entrer dans le détail de ce projet, notamment en ce qui concerne les contractuels, un premier mot, Olivier Babot, sur la philosophie générale de ce projet de loi. Cette réforme, pour vous, va dans le bon sens ?
J'ai l'impression qu'elle va dans le bon sens. Alors, elle est toujours, c'est toujours imparfait. Une réforme de la fonction publique, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement compliqué. En partie parce que on essaye toujours de traiter de façon générale des choses qui sont très différentes en pratique, selon les métiers, évidemment, et puis on l'a dit, selon le type de fonction publique. Et c'est peut-être un des enjeux, c'est d'essayer de traiter enfin de façon moins centralisée, on dit souvent dans l'éducation nationale, par exemple, des choses qui sont souvent beaucoup mieux traitées sur plus près du terrain ou plus près des collectivités locales. On a parlé des gilets jaunes et je crois que effectivement, bien sûr, même si c'est une coïncidence de calendrier parce que c'est une réforme qui était un petit peu dans les tuyaux depuis un moment, mais ce qui a été exprimé parmi toutes les choses et parmi toutes les interprétations qu'on peut avoir, c'est le besoin d'État et surtout le besoin d'en avoir pour son argent. Hein, le besoin d'en avoir pour sa contribution. On sait qu'on contribue beaucoup en France, qu'on est aussi un État qui redistribue beaucoup, et on n'a pas toujours l'impression, nos concitoyens n'ont pas toujours l'impression que l'État est là où on l'attend, et j'aime bien cette idée de partir des attentes, parce que finalement c'est bien la bonne façon de partir, et non pas au contraire de partir uniquement de ce que veulent aujourd'hui les gens qui travaillent dans l'État. Ne confondons pas service public et fonction publique. Service public, c'est ce que doit faire l'État, et il peut le faire de tas de manières différentes. Il y a des associations qui font un travail formidable d'intérêt public. Il y a des contractuels, déjà 20% à l'intérieur de l'État, qui font un travail aussi formidable. La question, c'est quels sont les meilleurs moyens pour avoir le service public et quelle est la fonction publique qu'on veut pour ce service public.
Mais alors, voilà. Est-ce que l'efficacité, une plus grande efficacité des services de l'État passe par un recours plus important aux contractuels, Luc Rouban, ou est-ce que c'est avant tout pour faire des économies qu'aujourd'hui on embauche davantage de contractuels que de fonctionnaires ?
Pas nécessairement, si vous voulez. Le problème du recours actuellement aux contractuels est complexe parce que on a un recours contractuel soit pour occuper des postes, je dirais, de grande qualification, notamment en matière d'informatique. On a eu un gros problème parce qu'on n'avait pas de fonctionnaires titulaires qui connaissaient suffisamment l'informatique la plus récente. Donc on a recruté des contractuels, mais on a aussi essentiellement toute une masse de contractuels dans la fonction publique de l'État, mais surtout dans la fonction publique territoriale, qui sont des contractuels qu'on utilise à temps non complet, donc sur des situations précaires ou si vous voulez dans des surtout sur des emplois de catégorie C, donc d'employés. Donc si vous voulez, la situation des contractuels est loin d'être homogène dans la fonction publique, et donc le recours aux contractuels depuis un certain nombre d'années a suscité beaucoup de réflexions. D'une part, effectivement, la prise en compte de cette grande hétérogénéité. D'autre part, la nécessité progressivement, notamment sous l'influence de l'Union européenne, d'aligner le droit des contractuels de la fonction publique de plus en plus vers le droit privé. C'est-à-dire que pour l'instant, essentiellement, ce sont des contractuels de droit public. Mais on est progressivement passé, notamment depuis la loi de 2012, à une situation où on reconnaissait le CDI, on reconnaissait un certain nombre de droits qui auparavant n'étaient pas reconnus aux contractuels de la fonction publique, notamment en matière de chômage, en matière d'indemnité, etc. Donc on a étendu le droit, si vous voulez, une extension, une application progressive du droit privé aux contractuels. Cela étant, en termes budgétaires, en termes, je dirais, comptables, il est très très difficile d'évaluer l'impact différentiel entre le recours à un contractuel et le recours à un titulaire. Parce que, globalement, les économies constituent un effet de système. Hein. Ça se réduit pas à un type de recours juridique, si vous voulez, précis. C'est là, en fait, toute la difficulté.
Vous parlez d'une hétérogénéité des contractuels, mais selon un rapport de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, entre 40 et 50% des contractuels n'avaient effectué que des contrats très courts sur la période allant de 2011 à 2015. Vous estimez, Mylène Jacot, qu'on va vers une précarisation de la fonction publique ?
Je ne sais pas si on va vers une une précarisation, mais en tout cas, il y a une précarisation. Vous l'avez dit, sur la question du recours au contractuel, on voit bien qu'on a affaire à, d'un côté, des discours très idéologiques qui veulent nous faire croire que élargir le recours au contrat, ce serait rendre la fonction publique très attractive. C'est une espèce d'affirmation un peu magique. Je ne vois pas en quoi la multiplication des CDD, y compris de courte durée, etc., rendrait la fonction publique plus attractive. Donc on voit bien qu'il y a ce discours idéologique. Et puis à côté, il y a des attentes et des besoins qui sont de l'ordre du fonctionnement, des besoins managériaux, des besoins en termes de continuité du service public, etc. Donc, comment on traite ces besoins? Nous, il nous semble que ce sont ces besoins-là qu'il convient de traiter. Les questions idéologiques, j'ai envie de dire, laissons-les un peu de côté et attachons-nous, encore une fois, au travail et à son organisation. Sur la question du recours au contrat, il nous semble que l'élargissement du recours au contrat, aujourd'hui, il n'était pas nécessaire. Il peut y avoir une discussion éventuellement sur ce fameux contrat de projet ou contrat de mission qui est proposé dans le cadre du projet de loi qui va être débattu dans les prochains jours à l'Assemblée.
Gérald Darmanin parle même de généralisation des contrats.
Oui, mais bon, Gérald Darmanin, il a parlé de beaucoup de choses. La généralisation du contrat, la généralisation de l'individualisation de la rémunération, la généralisation des plans de départ volontaires. Enfin, voilà, aujourd'hui, le projet de loi, c'est pas tout à fait ça. Et nous, on discute de ce projet de loi et on agit et on porte nos revendications dans le cadre de ce projet de loi. Donc, sur la question, par exemple, du recours du contrat de mission, on peut entendre que certains employeurs, notamment les employeurs territoriaux, mais aussi du côté de la fonction publique de l'État et aussi du côté de la fonction publique hospitalière, il puisse y avoir des besoins sur des missions vraiment bien définies, ponctuelles et pour lesquels les employeurs n'ont pas les moyens de créer des emplois pérennes.
Il faut expliquer que c'est une nouveauté, le projet de loi qui prévoit 1 à 6 ans de contrat de mission.
Depuis le début, la CFDT a dit au gouvernement, on est prêt à entendre ce besoin, mais il convient d'en discuter. Le gouvernement nous a opposé une quasi fin de non-recevoir sur ce point-là. Et sur cette question du contrat de mission, on a même proposé au gouvernement de reprendre les dispositions qui existent dans le secteur privé et dans le code du travail pour les transposer à la fonction publique. Donc vous voyez bien le côté idéologique quand on dit les fonctionnaires seraient des privilégiés, la fonction publique serait un nid de privilèges incommensurables, etc. Alors que le privé serait un monde vertueux, etc. Nous on a proposé sur ce point-là le contrat de mission, prenons ce qui existe dans le privé et surtout retenons le fait que dans le privé, il existe un CDI de chantier. Un CDI, ce qui n'est absolument pas la même chose pour les agents qui en bénéficieraient qu'un CDD. Pour votre vie quotidienne, ça change tout quand même entre un CDD et un CDI. Et le gouvernement nous a dit non. Donc sortons de ces côtés idéologiques et vraiment mettons la discussion sur la condition des travailleurs de la fonction publique.
Olivier Babot, sur cet élargissement au contrat et sur cette, sinon élargissement, sinon de généralisation, mais du moins effectivement recours croissant aux contractuels.
Alors, si on a recours au contrat, un petit peu comme des entreprises peuvent faire des suites de CDD pour éviter d'avoir un CDI, c'est une très mauvaise idée, c'est une très mauvaise gestion, et effectivement, c'est une forme de précarisation, et c'est d'ailleurs organisationnellement pas très très efficace en pratique sur le terrain. En revanche, s'il s'agit d'attirer des compétences qui n'ont pas envie d'être fonctionnaires au long cours, forcément, des gens qui sont plus rares, si on a une mission bien précise, si ça permet aussi de donner des perspectives d'évolution, donc des gens viennent travailler au service public, dans un service public, au service du public, comme ils le feraient dans une entreprise avec la même motivation et avec faut dire des objectifs clairs et des évaluations, à ce moment-là, c'est plutôt une bonne idée. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, en Suède, il n'y a que 2% de gens qui ont l'équivalent, si vous voulez, de l'emploi à vie. C'est limité vraiment au strict régalien. On pourrait dire chez nous, peut-être l'équivalent de la justice, où il y a un côté prévention de la corruption, évidemment inamovibilité qui est extrêmement important, mais pour beaucoup, beaucoup d'autres emplois, on a du mal à comprendre aujourd'hui comment, si quelqu'un passe aujourd'hui l'agrégation à 24 ans, il est sur le rôle de l'État, disons qu'il va être actif, c'est-à-dire que l'État dit j'ai besoin de ta compétence pendant au moins 40 ans, Est-ce qu'on est vraiment capable de dire ça aujourd'hui? Est-ce que d'ailleurs on a vraiment envie de faire la même chose? Moi, je dis que c'est une très bonne chose qu'on puisse développer des allers-retours. Alors, on parle toujours des problèmes éthiques, évidemment, de conflits d'intérêts. On pourra parler tout à l'heure de la haute fonction publique, mais je pense que ça, c'est quelque chose auquel on peut remédier grâce à la transparence.
Justement, vous l'avez dit, Luc Rouban, le projet de loi prévoit en particulier l'ouverture des postes de direction aux contractuels. Alors, pourquoi cette mesure d'abord et quel problème est-ce qu'elle pourrait poser, selon vous, Luc Rouban?
Bien, c'est une évolution vers ce qu'on appelle la fonction publique de l'emploi, qu'on trouve notamment dans des pays comme les Pays-Bas, notamment aussi dans les pays scandinaves. C'est-à-dire que quand un poste, notamment de cadre dirigeant, c'est-à-dire les emplois de direction, c'est sous-directeur, chef de service essentiellement en France, hein, au niveau de la fonction publique de l'État. Vous avez aussi directeur général des services dans les collectivités territoriales. Mais disons, pour parler de la fonction publique de l'État, vous avez donc, en général, un système qui fait que vous avez un système de carrière où quand vous avez une nomination sur un poste de direction, vous allez prendre dans un corps particulier, notamment le corps des administrateurs civils, qui, par définition, suivant les propos même du statut particulier, ont vocation à occuper des emplois de direction. Or, dans les systèmes de fonction publique de l'emploi, vous ouvrez, si vous voulez, les candidatures à des candidats qui peuvent venir du secteur privé, du secteur industriel et commercial, d'autres corps, enfin aussi à des corps, ou d'autres horizons.
Il y a cet espoir de réussir à attirer des salariés du privé.
Alors voilà, c'est l'espoir d'attirer des salariés du privé. Alors là, c'est un petit peu un mythe, parce que si vous voulez, ça fait des années qu'on essaye de nous vendre cette idée que les salariés du privé, notamment les cadres, se précipiteraient sur des emplois contractuels dans le secteur public, dans l'administration. Ce qui s'avère en général, et ce qui s'est toujours avéré très très difficile, on a pratiquement recruté très peu de monde, pour des raisons salariales, tout simplement, et pour des raisons, il faut bien le dire clairement, de gestion des ressources humaines, qui sont souvent bien meilleures maintenant dans les grandes entreprises privées que dans la fonction publique. Je dirais surtout dans la fonction publique de l'État. Alors ça dépend des ministères, parce qu'il y a des ministères qui sont très très bien gérés de ce côté-là, comme le ministère de la Défense, et il y en a d'autres que je ne citerai moins, ou que je ne citerai pas du tout, qui sont beaucoup moins bien gérés. Bon, donc, si vous voulez, le problème, il est là. Donc vous avez un différentiel de salaire, vous avez un problème de marché du travail, et vous avez aussi le problème que ces emplois qui n'impliquent pas ces emplois contractuels de direction, qui n'impliquent pas la titularisation, sont par définition des emplois temporaires. Donc c'est tout le problème de la carrière. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Donc tout le problème, il est là.
Et est-ce que ça ne menace pas aussi une école comme l'ENA, justement? Est-ce que ça ne risque pas de créer une nouvelle concurrence?
Bien sûr, puisque par exemple, vous pouvez avoir de jeunes diplômés, par exemple de Sciences Po, qui vont rentrer dans le secteur privé. Les deux tiers des anciens de Sciences Po vont dans le secteur privé aujourd'hui. Faire une carrière dans le secteur privé, dans une entreprise, puis ensuite candidater pour un emploi de direction dans les administrations, sans passer par l'ENA. Donc ça va poser, en fait, à terme, une vraie question qui est celle des écoles de formation. Ça, c'est très important, parce qu'il va y avoir un jeu de dominos où progressivement, finalement, eh bien, on va se remettre en cause tout le système de 1945-46.
On voit bien, Olivier Babeau, qu'il y a une vraie difficulté à attirer encore aujourd'hui les salariés du privé dans la fonction publique.
Oui, d'ailleurs, moi, je suis de ceux qui disent que aujourd'hui, on a été extrêmement lâches, les politiques ont été extrêmement lâches depuis très longtemps en sacrifiant, on pourrait dire, la qualité de la rémunération au profit de la quantité. Donc on a laissé se paupériser la fonction publique, toute fonction publique convaincue, les chiffres sont assez étonnants, hein, si on part de loin. Autrefois, par exemple, je parle pour ma paroisse, un professeur d'université, alors non seulement quand il devenait professeur, on lui remettait la Légion d'honneur le jour où il l'était, mais en plus, il avait les moyens d'habiter dans le 7e arrondissement, etc. Aujourd'hui, nous sommes complètement paupérisés, et c'est le cas, évidemment, a fortiori, des professeurs des écoles et de beaucoup de fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas reconnaître la qualité et l'importance de ce que c'est que les fonctionnaires aujourd'hui. Donc je suis pour la revalorisation très profonde pour que ce métier soit extrêmement attractif. Alors, en ce qui concerne la haute fonction publique, là, je suis aussi extrêmement, disruptif, puisque je milite pour la fin des grands corps, de façon extrêmement claire. Longtemps que je l'ai écrit dans différents ouvrages, c'est pas normal que parce qu'on a été très scolaire, qu'on a fait Sciences Po pour la plupart, 75% à peu près, et qu'on a réussi un concours à 24 ans, on gagne un droit exclusif d'accès au poste de la haute fonction publique, exclusif, c'est-à-dire que même si on est nul, on va y rester, et personne d'autre, parce qu'il aura évidemment pas eu l'heure de faire exactement ce parcours, parce qu'il aura voyagé, créé une entreprise, fait d'autres études, eu d'autres idées à un moment, ne puisse pas venir. Il faut ouvrir les fenêtres de la haute fonction publique.
Donc on supprime
l'ENA. Alors l'ENA, donc qui a été créé par Jean Zay, avant évidemment, il avait l'idée, puis évidemment il a été abattu par la milice, assassiné par la milice. C'est Jean Zay du Front Populaire qui avait créé non seulement le Festival de Cannes, mais aussi l'ENA. Il avait cette idée-là. Il faut se souvenir que l'ENA, on l'a créé pourquoi ? Parce qu'avant c'était de la cooptation sociale la plus pure en réalité. C'est Sciences Po en fait directement qui faisait ça. Donc l'ENA c'était quand même un progrès de ce point de vue-là. Il ne s'agit pas de supprimer l'ENA, il s'agit à mon avis de la transformer en une école de formation continue pour des gens qui à un moment donné disent je veux aller servir l'État pendant quelques années, une dizaine d'années, cinq années, je vais me former à la spécificité publique. Les gens arriveraient avec une ouverture de regard, ils ne seraient plus dans cette espèce d'existence en silo où vous avez été dès 24 ans élevé à regarder le monde par en haut du côté de la fonction publique d'État. Je pense que ça apporterait un oxygène extraordinaire.
Mylène Jacot, sur cette question de la formation et aussi peut-être du suivi de carrière de ces contractuels.
Oui, voilà, enfin, nous en tout cas on est partisans de poser les questions en termes de parcours professionnel. Au-delà de la question du statut ou pas du statut, etc. Mais on est vraiment sur des réflexions en termes de parcours. Bon, d'abord sur l'ENA, j'ai envie de rappeler quand même que l'ENA n'est pas la seule grande école qui forme les cadres supérieurs ou dirigeants de l'État, il y en a d'autres, et que surtout c'est pas la seule école de ce niveau-là, puisque vous avez aussi l'INET pour la fonction publique territoriale et le HESP pour la fonction publique hospitalière. Et ce projet de loi prévoit une habilitation à procéder par ordonnance. Donc au-delà de la question des ordonnances, il convient quand même de rappeler que d'abord c'est pas forcément un déni de démocratie, mais c'est aussi surtout la possibilité d'ouvrir un nouveau délai de réflexion et de concertation avec les organisations syndicales sur la question de la formation. Donc il y aura ces sujets-là qui seront traités et qui sont de toute façon à traiter. Mmh. Sur la question des cadres, il nous semble qu'il convient d'avoir une réflexion en termes de conditions d'emploi, en termes de parcours professionnel, en termes de compétences exigées, en termes d'équité d'accès à ces postes, en termes de règles déontologiques, en termes de rémunération.
Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est à surveiller.
Et surtout en termes d'organisation des recrutements. Et que, au-delà de la question de l'ouverture aux contractuels, qui encore une fois est une musique très idéologique, il y a derrière une autre ouverture, et qui sera peut-être celle qui sera la plus utilisée. Au final, on verra. Donnons-nous rendez-vous dans quelques années, d'ici 3, 4, 5 ans, qui est une ouverture à des fonctionnaires de catégorie A sur un certain nombre de ces postes de direction, de sous-directeur, etc. Et là, on verra aussi les impacts en termes de parcours professionnel. Et peut-être que ce sera cette ouverture-là qui, quantitativement, sera la plus importante que celle du recours au contrat, parce que ça a été très bien dit, du secteur privé, à ces niveaux-là de responsabilité, a envie de quitter un CDI pour venir dans la fonction publique, pour renoncer à minimum un tiers, voire deux tiers de sa rémunération, et avec la seule perspective d'un CDD. Donc, voilà, en termes d'attractivité, on a connu mieux. Donc,
alors,
posons un peu les débats.
Cette question des contractuels, mais il y a aussi un autre point sensible de ce projet de loi, c'est la réforme des instances de dialogue social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Luc Rouban, ce que prévoit le gouvernement sur cette question ?
Bon, il est prévu un ensemble de dispositions qui doivent simplifier, si vous voulez, le système des commissions administratives paritaires, les CAP, qui donnent leur avis, qui se prononcent sur l'avancement, les mutations, la mobilité des agents face, bien sûr, à la hiérarchie. Alors, bon, on a des relations, évidemment, toujours assez complexes, difficiles et très variables suivant les corps et suivant les ministères. Donc, effectivement, il y a parfois des véritables bras de fer entre la hiérarchie et les syndicats, notamment lors des CAP. Parfois, ça se passe beaucoup mieux. Mais bref, en fait, un des grands problèmes, si vous voulez, c'est qu'il y avait énormément de réunions, parce que c'était des CAP organisés par corps. Et donc, le gouvernement propose de les organiser maintenant par catégorie. Hein, comme ça se passe, je crois, dans les deux autres fonctions publiques. Donc,
et
si
alors,
vous
qu'est-ce
voulez,
que ça soulève comme enjeu?
Donc, tout simplement pour simplifier et pour réduire le poids de travail, le nombre d'heures passées à se consacrer à ces réunions et à les préparer. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est quand même, à mon avis, beaucoup plus important, c'est le fait que les CAP ne vont plus se prononcer a priori sur l'avancement, sur les mutations et la mobilité. Ce ne sont plus que des instances de recours et garderont évidemment toujours leur fonction disciplinaire. Mais ce ne sont plus que des instances de recours. Donc quand même, globalement, on assiste à un renforcement de la ligne hiérarchique, du pouvoir hiérarchique, dans l'idée que les dirigeants, enfin disons les cadres de l'administration, doivent de plus en plus se conduire comme des managers. Ce qui est un petit peu contestable, puisqu'en fait, dans la fonction publique, vous n'avez pas une liberté totale ni de choix, ni de rémunération de votre personnel. Surtout pas, d'ailleurs, quand vous êtes chef de service.
Mais Édouard Philippe, lui, a dénoncé le manque d'efficacité d'un dialogue social qui s'appuierait sur 22 000 instances publique.
Voilà. C'est-à-dire, c'est la lourdeur du dialogue social dont la qualité s'est fortement dégradée. Vous savez, au CEVIPOF, on a fait un observatoire du dialogue social et on s'est aperçu que le dialogue social était d'une qualité exécrable, encore plus exécrable dans le secteur public que dans le secteur privé, si vous voulez, avec des syndicats qui, pour l'heure, n'attirent la confiance qu'environ que d'un tiers des fonctionnaires. Donc vous avez vraiment un problème aussi syndical de réorganisation au niveau local de leur activité, des syndicats qui, pendant très longtemps, étaient quand même à la fois très fortement corporatisés eux-mêmes et très habitués, très structurés pour, si vous voulez, négocier des grandes messes salariales au niveau central.
À tel point que ce que vous dites, Luc Rouban, c'est que là où la fonction publique a longtemps été considérée comme une vitrine sociale dont les acquis précédaient ceux du secteur privé, les choses se sont inversé à partir du début des années 2000.
Oui, parce qu'effectivement, on a le sentiment que on a un mécanisme de dialogue social qui s'est lui-même fortement bureaucratisé, avec forcément des stratégies individuelles de contournement, diverses et variées. Donc un système, si vous voulez, qui ne satisfait pas les agents, qui ne satisfait personne, ni la hiérarchie, ni les syndicats d'ailleurs. Donc là, on a un vrai problème. Et c'est quand même, j'insiste là-dessus, c'est quand même l'idée dans ce projet de renforcer la ligne hiérarchique et de rendre plus autonomes les dirigeants. Il faudra voir maintenant s'ils ont vraiment les moyens. Ça, c'est un vrai problème.
Mylène Jacot, sur ces réformes, cette réforme des instances de dialogue social et aussi sur ce recul des syndicats aux élections dans les fonctions publiques en 2018, la participation s'est élevée à moins de 50%. C'était 3 points de moins qu'en 2014.
Oui, donc il y a deux sujets dans ce projet de loi qui font l'essentiel de nos désaccords aujourd'hui avec le gouvernement. On en a parlé juste avant, c'est la question de l'élargissement du recours au contrat, dont on ne soit pas persuadé qu'il soit un grand vecteur d'amélioration des services publics. Et puis cette question du dialogue social. Mais j'ai envie de dire, le premier des désaccords, c'est que dans ce projet de loi et dans la concertation qui l'a précédé, le gouvernement a porté une vision du dialogue social qui se réduisait aux seules instances. Donc nous, on n'est pas favorable à la réduction des compétences des commissions administratives paritaires, notamment en matière d'avancement, parce que la question des avancements, ça fait le lien avec la question des parcours professionnels, avec la question de l'égalité professionnelle, etc., etc., et donc des sujets qui, en tout cas pour la CFDT, sont ô combien importants. Et puis, il y a la question de la fusion des CT, des CHSCT, c'est un peu technique, mais là, sur ce point-là, on a obtenu quand même quelques garanties sur les compétences en matière de santé, de sécurité au travail, de conditions de travail. Donc, voilà. Donc, il y a ce désaccord-là. Et puis, c'est un désaccord sur la conception du dialogue social. Il nous semble que dans la fonction publique, comme ailleurs, on ne peut pas réduire le dialogue social à la seule question des instances. Les instances, elles sont importantes à un moment du processus du dialogue social. Et que nous, on est très attachés à autre chose qui s'appelle la négociation. La négociation, elle a été confortée dans la fonction publique grâce aux accords de Bercy en 2008 et par la loi de 2010. Et on souhaite retravailler sur ce sujet-là. Là encore, ce projet de loi prévoit qu'on y retravaille. Mmh. Et là, on saura peser et dire toutes nos attentes.
On vous a bien compris sur l'importance de la négociation, Mylène Jacot. Et dans un instant, on va voir justement quelle est la place qui a été prise dans cette fonction publique des logiques du privé.
Des numéros dans la case d'en haut. J'ai ouvert le radiateur, je me shoot à la chaleur. Les pieds dans la moquette, la tête souvent ailleurs. Et comme dit Matt Crémière, j'ai pris le blues du fonctionnaire. Il est 8h31, j'enlève mon costume. À 9h moins 12, j'enfilerai ma blouse. À 10h moins le quart, j'irai prendre un petit noir. À 11h du matin, la peau sera pas loin. Même si j'en ai pas l'air, j'ai bien le blues du fonctionnaire. Quand je veux aller pisser, faut que je demande au chef. Il me fait le récépissé de son propre chef. Quand j'ai une course à faire, c'est un formulaire. Pour acheter un crayon, un ordre de mission. Tout ça me fout en l'air, ça me file le blues du fonctionnaire. Yeah.
l'échelle des salaires. Parfois j'en redescends quand y'a plus rien à faire. On nous refile des primes pour des trucs pas très clairs. Faut que je mette de la frime dans mon vocabulaire. Je crois que je suis titulaire du blues du fonctionnaire. J'ai bien quelques copains avec qui je discute. On cause de tout de rien pendant de longues minutes. La secrétaire secrète regrette ses cigarettes. Le téléphone sonne mais je m'entends bonne. Patron, encore un verre pour briller le blues du fonctionnaire. On fait souvent la fête dans notre service. On se marre avec les chefs et la femme de service. Pour les 3 ans du chien du cousin de la secrétaire, on lui a offert un petit coussin pour son derrière. Faut pas que je désespère, y'a du travail à faire chez les fonctionnaires. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous quitter. Avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est rappelé. J'ai l'angoisse du sous-fifre qui a perdu sa cravate. Et le bonheur du type à jamais bureaucrate. Encore un somnifère, y'a rien à faire contre le blues du fonctionnaire.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était le blues du fonctionnaire de Bernard Dautan, Luc Rouban, Mylène Jacquot et Olivier Babot sont toujours avec nous pour parler de la transformation de la fonction publique. Et pour bien comprendre les enjeux du débat, il faut revenir quelques décennies en arrière. On a commencé à en parler, Luc Rouban, mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur les bases, véritablement, sur lesquelles ont été élaborées ce statut de fonctionnaire au lendemain de la Libération.
Oh, c'est une très longue histoire, parce que si vous voulez, c'est une histoire qui est d'abord liée à la construction républicaine sous la Troisième République. C'est-à-dire que la Troisième République arrive un moment où on sort d'une période de dictature autoritaire du Second Empire, enfin, Second Empire qui était devenu un peu plus libéral, mais enfin qui était quand même largement autoritaire. Donc, avec une attente sociale très forte de la part des agents publics, qui sous la Troisième République, rappelons-le, sont pour l'essentiel, à part quelques grands corps et quelques élèves des écoles comme Polytechnique, sont des agents contractuels. Bon. Donc on a une situation extrêmement anarchique, qui suscite énormément de revendications de la part notamment de la Fédération Générale des Fonctionnaires et des associations professionnelles, parce que, je le rappelle, sous la Troisième République, vous n'avez pas le droit d'être syndiqué ni d'être en grève quand vous êtes fonctionnaire. Bon. Pourquoi ? Parce que c'est justement toute la logique républicaine qui est en œuvre, c'est-à-dire que la légitimité centrale appartient à l'élu, et le fonctionnaire, en quelque sorte, eh bien, c'est le bras droit de l'élu. C'est, en quelque sorte, la courroie de transmission des décisions politiques, donc, la grève est considérée comme une sédition et elle est immédiatement sanctionnée par des révocations extrêmement brutales.
Et à quel moment justement les fonctionnaires vont-ils obtenir ce droit de grève ?
Alors, ils vont l'obtenir justement en 46 dans le cadre, je dirais, des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, puisque la CGT est alors très puissante, le Parti communiste aussi. Et à la suite d'un très grand nombre de débats qui ont lieu dans l'entre-deux-guerres, où justement un certain nombre de militants de gauche comme Maxime Leroy refusent l'idée d'un statut, parce que le statut pendant très longtemps était considéré comme un élément conservateur qui devait, comme celui qui existe actuellement dans la fonction publique fédérale américaine, interdire le droit de grève. Donc pendant très longtemps, la Fédération Générale des Fonctionnaires dit non, on ne veut pas de statut, on veut être aligné sur les salariés de droit privé, pour bénéficier de la plénitude des droits sociaux. Donc les communistes, en 1946, font passer la plénitude des droits sociaux.
Et je citerai simplement Maurice Thorez, qui dit à ce moment-là, voilà. Il est alors ministre de la fonction publique, et il estime que c'est un premier pas vers la libération du fonctionnaire, enfin considéré comme un homme et non comme un rouage impersonnel de la machine administrative.
Oui, alors ça c'est un problème très important, parce que si vous voulez, Thorez souligne là une question qui traverse toute l'histoire de la fonction publique depuis très longtemps, depuis même l'Ancien Régime, qu'on ne retrouve pas dans les autres pays européens notamment. C'est-à-dire l'idée que dans le fond, on n'a jamais su quelle était réellement la place sociale des fonctionnaires dans la vie du pays. C'est une question qui est un peu une énigme en France, parce qu'ils sont considérés un petit peu comme les compétiteurs des élus, ils sont de plus en plus compétents, ils sont de plus en plus techniciens. Il faut rappeler quand même que avant la guerre de 1914, vous avez déjà 1 million de fonctionnaires. C'est tout le projet républicain de l'éducation nationale, tout le projet républicain de la colonisation. Donc si vous voulez, vous avez une force d'État qui est en train de monter, avec, si vous voulez, en même temps, et ça c'est paradoxal, une précarité complète de ces agents. Donc si vous voulez, cette question de l'incertitude du statut social et professionnel des fonctionnaires en France va perdurer, si vous voulez, même dans le cadre du statut. Parce qu'il va y avoir évidemment une autre question qui va structurer tout le débat, c'est la séparation entre fonctionnaires et, disons, fonctionnaires qui n'appartiennent pas à la haute fonction publique. Mmh. Ce qui fait que quelqu'un comme Roger Grégoire, qui participe à la création, à la rédaction du statut, va, dès la fin des années 50, va dire, mais finalement, on pourrait garder le statut pour les vrais fonctionnaires en haut, hein, un peu le modèle allemand, si vous voulez, aujourd'hui, et puis bah, tous les autres, ils pourraient être privatisés et utilisés sur contrat.
Et à partir de quel moment, Luc Rouban, et après je vous donnerai la parole, Mylène Jacquot, Olivier Babot, à partir de quel moment les logiques du privé ont commencé à prendre une place de plus en plus importante au sein de la fonction publique ?
Ben, je n'irai pas jusqu'à dire que les logiques du privé ont pris une place importante dans la fonction publique, si vous voulez, parce que la réalité, c'est que vous avez eu une évolution à partir des années... paradoxalement,
vous parlez du New Public Management, par exemple.
Oui, bah alors ça commence, si vous voulez, à percer dans le projet Rocard des années 90. Si vous voulez, on essaye d'adopter un certain nombre de mécanismes de gestion, de management inspirés du privé, mais avec des projets de services, des centres de responsabilité, une autonomisation plus forte des services. Donc cette idée va pénétrer en France, mais très tardivement par rapport à des pays comme le Royaume-Uni, où là, on passe vraiment à des privatisations extrêmement dures dès les années 80. Donc c'est à partir de là qu'on commence à entrer dans une logique du privé sans que nécessairement cette culture se développe réellement. Cela, on a des outils, mais on n'a pas la culture, si vous voulez.
Alors cette culture ne s'est peut-être pas suffisamment développée. Pour vous, Olivier Babot, il faut davantage justement s'inspirer des méthodes de management, en particulier du privé.
Alors, moi, en fait, je ne comprends pas très bien le débat public-privé, parce que, vous savez, j'enseigne le management, moi, à l'université, voilà, c'est ma principale activité, et on ne fait aucune différence, vous savez, quand je fais la cour de théorie des organisations, on ne fait aucune différence entre public-privé, on parle d'organisation, et en fait, quel est le problème? J'ai dit tout à l'heure, c'est l'organisation de l'action collective, donc on a un but commun et on met des gens qui vont travailler pour ce but commun. Vous avez toujours un dilemme entre autonomie et hétéronomie, entre liberté et contrainte. La liberté du travailleur qui a ses propres aspirations, ses propres intérêts, et puis la contrainte qui est issue du fait que vous allez répartir les tâches et vous êtes obligé de vous coordonner. Toutes ces problématiques-là, elles existent partout. Qu'est-ce qui diffère que vous soyez une entreprise, une fonction, une administration ou une ONG, par exemple?
La question de la rémunération au mérite, par exemple, c'est une question qui établit un clivage.
En fait, ce qui change, c'est l'objectif, évidemment. Vous ne faites pas la même chose. Et d'ailleurs, l'État... Sa complexité, c'est que l'évaluation de la performance est très difficile parce que vous faites quelque chose qui produit souvent des externalités positives, mais ça n'est pas traduit par un marché. Il n'y a pas de mécanisme de prix, il n'y a pas de relation entre la valeur que vous apportez et puis un chiffre d'affaires qui est produit tout de suite. Donc ça, c'est pas facile. Mais après, derrière, le fait qu'il faut que vous soyez motivé, que vous trouviez du sens dans votre travail, la question de la difficulté de décider qui est promu, qui n'est pas promu, qui a une prime, qui n'a pas de prime, qui on va embaucher. Le concours est censé apporter, pour dire, de la rigueur. Malheureusement, tout le reste, le statut le fixe un petit peu, le fige, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encouragé à mieux faire. Encore une fois, on voit toujours midi à sa porte, mais alors, les professeurs à l'université ne sont évalués à aucun moment de leur vie professionnelle sur la qualité de leur enseignement. C'est comme je vous le dis, c'est aussi dingue que ça, mais à la limite, si vous venez pas, si vous vous en foutez, si vous faites ça, vous ne serez jamais récompensé de vos efforts supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas de le faire, mais à ce moment-là, c'est la pure conscience professionnelle. Il y a un problème d'incitation, et il se pose dans le public comme dans le privé.
Sur cette question de l'élargissement de la rémunération au mérite, en particulier Mylène Jacquot.
Bon, d'abord, je tiens à rappeler que les 5 millions et quelques de fonctionnaires ou d'agents publics sont évalués et que les enseignants de l'université sont une exception au milieu quand même de la grossesse.
Est-ce que c'est une vraie évaluation, sérieusement?
Si, bah oui, si, quand même. Je veux dire, ça va.
Il faut évalue aussi.
Il faut aussi qu'on soit capable nous-mêmes de sortir de l'étau de l'entretien des stéréotypes, des préjugés sur la fonction publique. Et ce projet de loi généralise l'évaluation, y compris aux fonctionnaires du versant hospitalier qui jusqu'à présent étaient notés parce que une organisation syndicale pense que la notation c'est un système merveilleux et que pour notre part on est quand même convaincu que la notation est un système un peu infantilisant, pour le dire gentiment, et que l'évaluation permet peut-être aussi à un moment un exercice qui permet à l'agent de s'exprimer lui-même et d'exprimer ses aspirations, ses besoins. Et après, il y a tout l'exercice de la conciliation avec l'intérêt du service.
Mais est-ce que le fait de renforcer cette rémunération au mérite, ça permet de renforcer aussi la motivation des agents?
Parce que c'est la rémunération au mérite, c'est bon, ça existe depuis 1959.
Elle est renforcée aujourd'hui.
Une nouveauté. Deux, il n'y a pas besoin d'une loi pour la renforcer. Voilà, il y a peut-être besoin d'un peu de moyens budgétaires, mais ça, c'est un autre débat. Trois, sur la question de l'évaluation au mérite. Le problème, c'est qu'on institutionnalise une espèce de concurrence entre les agents en oubliant le fonctionnement des services eux-mêmes qui reposent sur un collectif et sur un collectif de travail. Et que là, je rejoins ce qui a été dit précédemment, que les entreprises ont parfois réussi à mieux organiser ce sens du collectif dans l'intérêt des services à rendre aux usagers.
Je voudrais entendre Luc Rouban, et malheureusement on arrive presque au terme de cette émission, et je voudrais en même temps vous demander si Emmanuel Macron va réussir à tenir sa promesse, justement, de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique d'ici à la fin du quinquennat en 2022.
Oui, avant de répondre à cette question, effectivement, je voudrais faire simplement deux remarques. Il y a quand même une différence entre public et privé, entre fonctionnaires, enfin disons, entre agents du service public et salariés du privé, il y en a deux. C'est que la première, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit, mais il faut insister là-dessus, le monde du secteur public est beaucoup plus complexe. En fait, quand on est dans la fonction publique, on est dans un monde politique. Donc l'évaluation, in fine, elle est politique dans les urnes. Donc ça, c'est une vraie différence, parce que vous avez des acteurs beaucoup plus nombreux et vous avez un système beaucoup plus complexe et les choses sont beaucoup moins simples. Et deuxièmement, en termes de motivation, vous avez une motivation de service public qu'on peut isoler dans les enquêtes, qui n'existe pas dans le privé. Vous avez des gens qui veulent faire des métiers qui n'ont aucun lien avec la culture de l'argent. Ils veulent être pompiers, ils veulent être militaires.
Et en même temps, vous avez vu comme moi, pardon de vous couper, ce rapport de l'Inspection Générale des Finances qui estime que 310 000 fonctionnaires travailleraient moins de 35 heures par semaine. Et alors, pour un tiers d'entre eux, ce serait lié à des horaires difficiles. Mais pour les deux tiers restants, le rapport estime que rien ne justifie un temps de travail inférieur à 35 heures.
Oui, mais ça, alors là, écoutez, alors, la question du temps de travail, c'est une question complexe parce qu'effectivement, ça doit être apporté à des sujets particulières. Vous avez effectivement des cultures locales, ministérielles ou dans les collectivités locales très particulières, mais ça c'est un autre débat. Mais la motivation de service public, elle existe, ça on la voit très bien quand on fait des études sociologiques. Alors in fine, pour répondre à votre question sur est-ce que Emmanuel Macron va réussir, moi je crois que le vrai problème c'est sa relation aux collectivités locales, parce que le vrai problème aujourd'hui c'est pas tellement la fonction publique de l'État, c'est pas l'hospitalière qui manque désespérément de personnel, parce que vous avez une demande croissante de santé. C'est vraiment la question des collectivités territoriales, d'où le problème des mauvaises relations d'Emmanuel Macron avec les élus locaux et le Sénat.
C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup à tous les trois, Luc Rouban, Mylène Jacquot et Olivier Babot, d'avoir partagé avec nous vos analyses autour de cette table. Luc Rouban, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Quel avenir de la fonction publique ?» paru à la Documentation française. Il est 14h45 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Et comme chaque semaine, on vous propose un ouvrage qui a marqué la pensée économique ou les sciences sociales. Aujourd'hui, c'est le livre d'un prix Nobel, L'entreprise, le marché et le droit de Ronald Coase, que nous avons choisi. Bonjour Elodie Bertrand.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et rattachée au laboratoire Institution des sciences juridiques et philosophiques de l'Université Paris 1. Alors d'abord, qui est Ronald Coase, cet économiste britannique qui a vécu plus de 100 ans et qui, de socialiste, est devenu au cours de sa vie un fervent libéral?
Il est né en 1910 dans la banlieue de Londres. C'est un économiste intéressant parce que il a eu le prix Nobel, ce qu'on appelle le prix Nobel en 1991 pour deux articles, dont le premier qu'il avait écrit vraiment quand il avait à peine une vingtaine d'années, quoi. Donc le premier, c'est La nature de la firme, qu'il a écrit en 1937. Et le second, c'est le problème du coût social, qui a été publié en 1960. Deux articles qui ont mis en avant donc deux concepts qui ont été ressortis par le comité Nobel, qui sont les coûts de transaction pour le premier et les droits de propriété pour le second. Et en fait, c'est vrai que sa carrière est intéressante parce qu'il a passé de nombreuses années à la London School of Economics, donc quand même un grand endroit de construction de la théorie économique au XXe siècle. Et puis, au début des années 50, il a émigré aux États-Unis, dont vous l'avez dit, il était plutôt socialiste dans les années 30. Et puis, quand il émigre aux États-Unis dans les années 50, une des raisons, c'est qu'il avait peur que la Grande-Bretagne devienne socialiste. Et il a fini sa carrière à Chicago, donc assez proche de la fameuse école de Chicago, avec Becker, tout ça. Mais c'était pas les collègues avec qui il travaillait en priorité. Et lui, il était plus à l'école de droit, à l'université de Chicago. Donc malgré sa célébrité, il restait un petit peu isolé.
Alors les deux articles que vous avez cités, à la fois La nature de la firme et Le problème du coût social, font tous les deux partie de cet ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui. Et justement, dans son article La nature de la firme, qui est publié en 1937, Ronald Coase cherche à comprendre pourquoi une entreprise choisit de produire elle-même un bien ou au contraire d'externaliser sa production.
Tout à fait. C'est vraiment la question qu'il pose, et il la pose finalement presque en tant que gestionnaire, parce qu'en plus il faisait plutôt des études de ce qui correspondrait à ce qu'on appelle la gestion aujourd'hui à la LSI. Et en fait, il se rend compte qu'à cette question, les économistes n'ont pas de réponse. Cette question, c'est pourquoi une entreprise produit en interne un moyen de production dont elle a besoin plutôt que de l'acheter sur le marché. Alors, c'est une question en plus qui, je trouve, un redouble d'intérêt quand on la place dans le contexte de l'époque, qui est celui d'un débat sur la planification. Dans la firme, on commande. C'est l'ordre, c'est la hiérarchie qui distingue la firme, alors que sur le marché, la coordination se fait par le système des prix. Et donc finalement, la question, c'est pourquoi les économistes de l'Ouest critiquent la planification, alors que dans les économies de marché occidentales, il y a ces fameux îlots de planification que sont les firmes.
Et alors pourquoi oppose-t-il l'entreprise et le marché et le Libertrand ?
Alors, justement, c'est vraiment le mode de coordination qui, pour lui, est différent. Il a cette expression qui dit bien les choses. Il dit, dans une firme, si un travailleur va d'un service à un autre, c'est pas à cause d'une variation des prix, c'est parce qu'on lui a ordonné de le faire. Donc, c'est ça la différence essentielle qu'il voit. Donc, la réponse à la question qu'il pose, ça va être justement, pourquoi existe-t-il les firmes ? Finalement, c'est parce que le recours au marché a des coûts. Finalement, avoir recours au système des prix est coûteux, parce que quand vous êtes sur le marché, il faut trouver la personne avec qui échanger, négocier avec elle, se mettre d'accord sur un prix, se mettre d'accord sur toutes les clauses du contrat, et faire respecter le contrat, et c'est tout ça qui a des coûts.
Et ce sont les fameux coûts de transaction qui seront ensuite conceptualisés par un autre prix Nobel, Oliver Williamson.
Voilà, c'est ça. Le terme coût de transaction est dû à Marshak dans les années 50. Puis c'est vraiment ce qu'on appelle la théorie des coûts de transaction. C'est celle que Williamson développera à partir de ça, où il généralise finalement l'argument de cause en le réduisant quand même aussi.
Et ce qu'il démontre finalement, c'est que le recours au marché n'est pas toujours la meilleure solution et qu'il vaut mieux parfois internaliser toutes les étapes de la production.
Oui, c'est ça. Sachant que, effectivement, la question d'après va découler de cette réponse-là. C'est-à-dire que maintenant, la question, c'est mais dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas une seule grande firme ? Et la réponse que Coase fait à ça, c'est il y a aussi des coûts de recours à la firme. C'est-à-dire que quand on agrandit la firme, il y a aussi des coûts de coordination. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas une seule grande firme. Et qu'on va avoir, dit-il, une taille optimale des firmes. On s'arrête d'agrandir la firme quand c'est finalement moins coûteux de retourner sur le marché.
Et alors en quoi cette vision renouvelle-t-elle la théorie néoclassique de l'entreprise ? Et en particulier peut-être en quoi est-ce qu'elle s'oppose à la théorie marginaliste de la firme qui se développe dans les années 30 avec Arthur Pigou puis John Robinson ?
En fait, la théorie marginaliste de la firme, elle voit la firme comme un producteur qui maximise son profit. Donc c'est une conception très pauvre, on voit finalement la firme juste comme un agent sur le marché qui achète des moyens de production et qui vend son produit. Et en fait, Coase dit finalement, ça c'est une boîte noire, et il ouvre cette boîte noire en disant, la question c'est plutôt pourquoi et qu'est-ce qui explique la taille d'une firme ? Finalement, dans la théorie marginaliste, on donne la fonction de production qui détermine la taille de la firme. Donc en fait, on suppose la taille optimale de la firme dans sa fonction de production. Donc finalement, il n'y a pas de question posée et il n'y a pas tout ce raisonnement-là qu'il y a chez Coase.
Quel écho, Élodie Bertrand, cette théorie des coûts de transaction a-t-elle eu à la fois auprès des économistes, des théoriciens, mais aussi auprès des firmes elles-mêmes ?
Finalement, le succès de cet article est assez étonnant parce que d'abord, en gros, il est passé inaperçu. Coase a des remarques très drôles sur « mais finalement, personne ne m'en a parlé, j'avais l'impression d'avoir fait la chose très importante de ma carrière déjà, et personne ne m'en a parlé ». Et finalement, l'article a été redécouvert à l'occasion du succès de l'article de 1960, le second dont on va parler dans un instant, et c'est ça qui a fait l'intérêt de Williamson. Williamson, en lisant cet article de 60, retrouve l'article de 37, vraiment, qui introduit ce concept de coût de transaction, si ce n'est le terme. Et c'est ça, à partir de là, qu'on redécouvre finalement ce concept-là et Coase. Et donc, il renouvelle les théories de la firme. On parlait de la théorie marginaliste, mais finalement, il y avait comme ça, dans les années 30, des contributions isolées qui la critiquaient, jusque dans les années 50, mais pas tant que ça. Et à partir des années 70, on a vraiment un renouveau des théories de la firme. On ouvre la boîte noire de la firme avec les concepts de coûts de transaction, de droits de propriété. On compare l'efficacité des différentes structures de firmes. Voilà, tout ça en économie, c'est un grand renouveau institutionnaliste en économie à partir des années 70. Finalement, ce que cette théorie des coûts de transaction, elle permet de montrer, c'est que si des entreprises fusionnent, c'est pas forcément pour faire des grands monopoles et obtenir du pouvoir de marché et augmenter les prix, c'est peut-être aussi une question d'efficacité. Et donc, c'est utilisé beaucoup dans la manière dont on évalue ces accords-là entre entreprises. Voilà, est-ce que c'est vraiment des questions d'efficacité ou est-ce que c'est juste pour obtenir des parts de marché.
Venons-en, Élodie Bertrand, si vous le voulez bien, à ce deuxième article publié en 1960, le problème du coût social. Ronald Coase propose une nouvelle façon de régler le problème des externalités négatives. Ce que dit Ronald Coase, c'est il ne faut non pas passer par la taxe, mais par le marché. Il redonne en quelque sorte la légitimité à cette idée d'une efficacité du marché.
Voilà, il arrive à cette idée-là, je voulais juste le mentionner parce que quand même on est ici, parce qu'il travaille sur les grands monopoles et en particulier les monopoles de radiodiffusion. Et c'est un article de 1959 qui porte sur les fréquences radio, qui va l'amener à cette idée-là, parce qu'il dit il y a un problème d'externalité avec les fréquences radio, qui est que si c'est alloué par le marché, quelqu'un qui a une fréquence proche peut interférer avec ma fréquence. Il dit finalement, on va considérer les fréquences radio comme un moyen de production quelconque, et on peut, si le droit de propriété est bien défini, l'allouer par le marché, exactement comme un autre moyen de production.
Et qu'est-ce que ça veut dire bien définir les droits de propriété ?
Ça veut dire en particulier définir le facteur de production en ce qu'il contiendrait le droit à polluer ou à interférer ou pas. Et vous, votre droit à une fréquence radio, par exemple, il faudrait que ça contienne le droit de pouvoir l'utiliser sans nuire à quelqu'un d'autre et le droit de l'utiliser sans être nui. Si on peut dire, par quelqu'un d'autre. Et là-dessus, d'ailleurs, il a gagné. Hein, on est passé au mécanisme par enchères et de marché pour attribuer les fréquences radio. Mais du coup, c'est dans cet article de 59 qu'il suggère l'idée qu'on pourrait résoudre le problème des externalités par le marché, qu'on pourrait considérer les biens qui provoquent des externalités comme des biens quelconques. Cette idée-là, elle éveille des critiques très, très vives de ses collègues qui refusent de publier l'article. Donc il va dans un séminaire à Chicago pour s'expliquer, il arrive, et dans ce séminaire il n'y a quand même pas n'importe qui, il y a Stigler, il y a Friedman, pas les petites pointures de Chicago. Il arrive à les convaincre et c'est pour ça du coup qu'il écrit le problème du coût social pour développer cette idée-là. Donc l'idée qu'il développe est celle-ci, hein, c'est en présence d'externalité, donc il y a deux hypothèses, il faut donc que ces droits de polluer ou d'être protégé de la pollution soient définis et si les coûts de transaction sont nuls. Alors les échanges permettent deux choses. D'une part, que le résultat soit efficace, c'est-à-dire que le droit est dans les mains de celui qui lui attribue le plus de valeur. Et d'autre part, le résultat est indépendant de l'attribution initiale du droit. C'est ça le fameux théorème de Coase.
Le fameux théorème de Coase. Et c'est cette vision que l'économiste George Stigler va résumer dans ce que lui appellera le théorème de Coase. Théorème qui, comme vous l'avez dit, a été largement débattu depuis 60 ans. Il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de critiques autour de ce théorème.
Absolument, c'est un théorème qui pose quand même plusieurs problèmes parce que comme chez Coase, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de formalisation, il n'y a que des exemples. Du coup, on peut généraliser ces exemples de différentes manières. Le deuxième problème, c'est que on l'appelle théorème de Coase, mais finalement, le message de Coase est assez opposé à ce théorème-là. C'est-à-dire qu'on résume Coase à ce théorème-là, mais en fait, ce qu'il dit, c'est que dans la réalité, il y a des coûts de transaction. Donc le marché ne va pas forcément être la solution. Et le troisième problème, c'est que ce théorème, donc ça n'est pas un théorème puisque il est réfuté et qu'au mieux, si on veut le rendre valide, finalement on le rend tautologique, hein, circulaire.
C'est-à-dire ?
Le principal problème finalement, c'est que si vous attribuez comme ça le droit à polluer à l'un et pas à l'autre et que vous laissez faire une négociation entre les deux, vous avez un vendeur et un acheteur. C'est le problème du marchand de tapis. Hein. Il y en a un qui ne veut pas acheter au-delà d'un certain prix et l'autre qui ne veut pas vendre au-dessous d'un certain prix. Et si on ne se met pas d'accord, l'échange n'a pas lieu. Et c'est bien ça qui fait qu'on a un problème de marchandage. Hein. C'est-à-dire que le prix n'est pas donné. C'est d'ailleurs bien la différence avec le modèle de marché qu'on a en général en théorie économique, qui est le modèle de concurrence parfaite. Et c'est le problème fondamental du marchandage, que là, un peu, en général, en économie, on met sous le tapis, mais qui ressort clairement avec ce théorème de Coase. Et donc, le seul moyen de valider le théorème de Coase, c'est dire que les problèmes de marchandage sont inclus dans les coûts de transaction. Alors, évidemment, si on suppose que le marchandage est efficace, la conclusion est que ça va l'être. Et on est, en ce sens-là, dans un raisonnement circulaire.
On arrive presque au terme de cette interview. Élodie Bertrand, qu'est-ce qu'il faut retenir, selon vous, des travaux de Ronald Coase et pourquoi vous semble-t-il encore pertinent aujourd'hui ?
Alors, chez Coase, il y a cette question méthodologique qui me semble très intéressante. Il ramène à chaque fois la théorie économique au réel. Là où les économistes assument, revendiquent d'être dans l'irréalisme, hein, lui veut des hypothèses réalistes. Ce qu'il apporte aussi, c'est cette idée que finalement, une politique économique, c'est un changement d'institution. Que même si on a recours au marché, le marché est une autre institution et que finalement, tous ces arrangements institutionnels entre lesquels on doit choisir ont tous des coûts et qu'il n'y a pas de solution optimale. Que ce soit le marché ou l'État, ils ont des coûts et il faut comparer ces coûts. Voilà, on peut dire que c'est deux idées importantes.
Merci beaucoup, Élodie Bertrand, de nous avoir fait découvrir l'entreprise, le marché et le droit de Ronald Coase. Je précise que l'ouvrage a été publié aux éditions Diderot. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Entendez-vous l'écho, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi pour une nouvelle série consacrée à l'économie du jeu. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.